Covid et enjeux écologiques, quelle future implantation des actifs? La soirée estivale de l'ORIE, en direct sur Radio Immo.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous, nous sommes en direct, il est 17h30 exactement, on est ravis d'être avec vous pour cet exercice un peu singulier, vous le savez, mesdames et messieurs, c'est un exercice 100% digital, voilà, 100% digital, pour vous donner de l'information avec cette soirée estivale de l'ORIE, je le rappelle, l'ORIE, l'Observatoire Régional de l'Immobilier d'Entreprise en Île-de-France. En tout cas, merci de votre confiance et de votre fidélité, c'est parti pour cette heure que l'on va passer ensemble, pour parler de l'immobilier francilien. Voilà, un peu plus d'une heure avec des invités, des personnes qui débattront sur le sujet Covid et enjeux écologiques, quel futur, implantation des actifs. C'est donc un très joli programme entouré d'experts et de personnes qui sont autour de moi. Et tout d'abord, place au président de l'ORIE. Bonsoir Antoine Verville.
Bonsoir à tous. Merci Sylvain pour votre accueil sur Radio Immo. On est très content à l'ORIE de revenir pour la deuxième fois présenter notre étude annuelle de l'ORIE sur vos antennes. Très heureux parce que c'est la traditionnelle soirée estivale qui, en temps normal, nous permettait de voir une centaine ou peut-être 200 personnes et puis qui finalement sur vos ondes permet de d'en voir ou en tout cas d'être avec des milliers et des milliers d'auditeurs, donc ça prêche la bonne parole si je puis dire de l'ORIE et ses études et on est très content de ça. Donc comme vous le savez, les missions de l'ORIE, bah, c'est principalement observer, hein, comme son nom l'indique, informer, encourager les échanges entre les acteurs du secteur public et les acteurs du secteur privé autour des enjeux de l'immobilier d'entreprise, mais aussi évidemment d'explorer tout sujet prospectif. Donc n'hésitez pas à rejoindre l'ORIE dans les semaines qui viennent pour profiter de nos études et puis aussi pour y apporter votre expertise. On sera ravis de cela. Donc pour notre étude de ce soir, qui est présentée ce soir et qui s'intitule, comme vous l'avez dit, Covid et enjeux écologiques, quelle future implantation des actifs, un groupe de travail composé d'une trentaine de membres de l'ORIE venant de différents collèges, le collège des conseils, le collège des promoteurs, celui des investisseurs, celui des utilisateurs, s'est réuni pendant un peu plus d'une année autour de nos deux pilotes, Cécile de Guilbon et Emmanuel Desmazières, pour apporter leurs fruits à cette étude qui va vous être présentée. Le but, c'était de déterminer les logiques d'implantation des actifs, en prenant en compte les conséquences de cette crise sanitaire sur les actifs, les bureaux qui ont souffert de cette crise, comment ça va évoluer, est-ce qu'il va y avoir un retour à la normale ou pas, quelles vont être les évolutions de cet actif. On pourra parler du commerce physique aussi, qui a évidemment souffert de la fermeture et aussi de la montée de l'e-commerce. Enfin bref, tous ces aspects-là. Et l'étude, elle va prendre également en compte les impératifs environnementaux, qui est quand même le plus grand des défis du 21e siècle, hein, que ce soit au niveau des transports, de la conception des bâtiments, de leur exploitation, ou évidemment à l'échelle des quartiers aussi, la hausse de la production des gaz à effet de serre, qui sont des sujets primordiaux. Donc voilà, les deux pilotes de cette étude vont vous présenter leurs travaux, les préconisations qui en ont découlé. Et puis après seulement cette présentation, vous pourrez aller charger la note semestrielle qui est associée à cette étude, soit sur le site de l'ORIE, soit sur le site de Radio Immo, qui nous accueille. Merci encore. Voilà, écoutez, je vais laisser la parole à nos deux pilotes. Je les remercie évidemment sincèrement. Je remercie toutes les équipes qui ont travaillé avec elles, les permanents de l'ORIE, les chargés d'études et tous les gens qui ont participé en tant que membres à cette étude.
Merci beaucoup Antoine Verville. Je rappelle, les amis, 17h34, vous êtes toujours en direct, si vous venez d'arriver pour cette soirée estivale avec l'ORIE. Je vais me permettre de présenter les personnes, d'ailleurs les protagonistes de l'étude, mais aussi d'abord nos invités qui nous ont fait l'honneur et le plaisir de participer à cette rencontre. Dans un premier temps, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Marianne Louradour.
Bonsoir Sylvain, bonsoir à tous.
Comment allez-vous Marianne ?
Eh ben, très bien, très heureuse d'être avec vous pour cette soirée estivale de l'ORIE.
Et merci, vous nous faites l'honneur de votre présence. Vous êtes directrice régionale Île-de-France de la Banque des Territoires, du groupe de la Caisse des dépôts, c'est bien cela ?
Absolument.
On est ravis d'être avec vous. Un homme politique est avec nous, et pas des moindres, quelqu'un qui connaît bien la ville en tant que telle, et surtout le milieu francilien, c'est Jacques-Alain Benesti qui est avec nous.
Bonjour Sylvain.
Merci d'être avec nous.
Je suis très heureux d'être ici.
Vous êtes le maire de Villiers-sur-Marne, vous êtes conseiller départemental, fraîchement élu d'ailleurs, réélu puisque vous aviez déjà occupé ce poste par ailleurs, conseiller métropolitain, membre du bureau et délégué du suivi Inventons la métropole du Grand Paris, tout un programme, et des grandes opérations métropolitaines chez la MGP, donc Métropole du Grand Paris, qui je le rappelle, est présidée par Patrick Ollier. Merci en tout cas d'être avec nous. Votre regard est très important, vous savez, dans cet exercice, puisque bien évidemment, dans ces rapports à la ville, à l'urbanité, le regard politique est fondamental, pour ne pas dire central, hein, dans cette action. Merci en tout cas d'être avec nous. Ils sont avec nous, ils sont les pilotes, voilà, de l'étude. Ils ont commis cette étude avec beaucoup de talent, je les connais bien. Cécile de Guilbon est avec nous.
Bonsoir Sylvain.
Ça va Cécile?
Oui, très bien.
Je suis ravi. Vous êtes l'administratif à l'OERIE et vous êtes présidente d'Esserto. Merci d'être avec nous. Emmanuel Desmézières qui est avec nous, il est aussi administrateur de l'OERIE et directeur général d'ICAD Promotion. Comment ça va Emmanuel?
Très bien, bonsoir Sylvain. Vacciné et donc en pleine forme.
Voilà. Voilà, on est tous en pleine forme. Est-ce que nous voyons peut-être la fenêtre, la lumière au bout du tunnel, en tout cas, souhaitons que les choses avancent dans le bon sens. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les activités ont quand même bien repris, ce qui est quand même des signaux importants, parce qu'on a besoin de positif. Hein. Résolument positif, ça ne veut pas dire qu'on élude la réalité, mesdames et messieurs, mais en tout cas, on donne des solutions, toujours résolument constructives, et complaisance, c'est de la complaisance, et la bienveillance, c'est tout autre chose, et nous sommes plutôt bienveillants. Merci en tout cas d'être avec nous. Ce que je vous propose, c'est qu'on tout de suite, on entre dans le vif du sujet avec cette étude. Vous allez voir, surtout, vous ne zappez pas, il est 17h37, c'est parti pour l'étude. Cher pilote, vous avez la parole.
En démarrant cette étude fin 2019 sur la logique d'implantation des actifs immobiliers en Île-de-France, nous ne pensions pas nous retrouver au fil des mois dans une actualité sanitaire qui a rendu cette thématique aussi prégnante dans la stratégie des acteurs économiques, dans les choix de lieux de résidence des Français et plus largement dans le débat public et politique. La densité de cette étude, l'impressionnante masse de data que nous avons été amenés à collecter et analyser, les très nombreux graphiques que vous trouverez dans l'étude finale ne doivent pas faire oublier qu'il est impossible aujourd'hui d'anticiper les conséquences de cette crise sanitaire et ce qu'elle pourrait engendrer sur l'économie et plus spécifiquement sur l'immobilier. Alors tout d'abord, nous avons fait évoluer le titre de l'étude pour s'adapter aux changements profonds que nous vivons, aux véritables enjeux. Le titre de l'étude devient donc, on l'a dit plusieurs fois, « Covid et enjeux écologiques ». Quelle future implantation des actifs ? En introduction, donc le copilote de l'étude, Emmanuel Desmézières et moi, nous souhaitons remercier très sincèrement au nom du conseil d'administration de l'OERIE tous les membres du groupe de travail, donc Antoine l'a dit, une trentaine, les intervenants extérieurs pour leur vision stratégique et leurs exemples concrets, et tout particulièrement notre chargé d'études, Raphaël Zeppa, qui n'a pas ménagé sa peine. Les conditions de réalisation de cette étude ont été difficiles, car le groupe de travail, en fait, a fonctionné exclusivement à distance entre septembre 2020 et juin 2021. Nous avons observé une très grande assiduité, beaucoup de ponctualité, un engagement sans faille pour produire ensemble les fameuses préconisations, hein, qui sont finalement la quintessence de tout ce travail. À certains moments, on a créé des sous-groupes pour dynamiser les échanges et les rendre plus interactifs. Cette étude, donc Antoine l'a dit, elle se traduit par 4 pages de synthèse dans le bulletin semestriel. Et l'étude, dont la primeur est bien sûr réservée à nos membres, fera donc une petite centaine de pages. Elle devrait être disponible donc mi-juillet en version papier et digitale. Donc merci à Sylvain Lévy-Valency pour nous accueillir aujourd'hui, son équipe pour toute la préparation de cette séance plénière. Et merci évidemment à nos invités d'honneur, Marianne Louradour et Jacques-Alain Benisti, qui ont pu consacrer de leur temps dans leur agenda serré et aussi pour ce magnifique studio. Emmanuel, je te laisse annoncer le plan.
Oui, donc cette étude, elle traite donc de l'évolution des implantations d'actifs sous l'influence des deux phénomènes majeurs que sont les enjeux écologiques et la crise sanitaire. Quand on parle d'actifs, en fait, on parle de 3 classes d'actifs. On parle du bureau, on parle du commerce et on parle de la logistique. Donc Cécile a remercié notre groupe de travail, averti. On a eu aussi le bénéfice d'une contribution forte d'un grand nombre d'intervenants de l'immobilier, des utilisateurs, des investisseurs, des brokers, des promoteurs, pour établir ce rapport de plus d'une centaine de pages. Pour commencer par le bureau et par l'impact de la crise sanitaire, en fait, c'est un double impact qui a frappé le bureau. Cette crise sanitaire, elle a déclenché une crise économique et puis le phénomène du télétravail. Pour ce qui est de la crise économique, ce qu'on peut relever, c'est que les mesures d'aide du gouvernement, que ce soit le chômage partiel ou le PGE, ont quand même effacé une grande partie de ces difficultés et qu'aujourd'hui, nous avons bien sûr une contraction de la demande passée en 2020-2021, mais on est dans un phénomène cyclique et on a l'habitude de pratiquer ces périodes-là. Pour le télétravail, le constat, il est déjà marqué par une grande hétérogénéité. On est finalement sur un petit quart des salariés qui ont télétravaillé en Île-de-France durant le premier confinement. Un grand nombre de secteurs d'activité, et on pense à la restauration qui a été donc aidée avec le chômage partiel, on pense à la construction, ne sont pas télétravaillables. Et donc sur ce quart de salariés qui sont assujettis au télétravail, par contre, un grand nombre d'entre eux, 80%, l'ont pratiqué jusqu'à 2 jours par semaine, avec un seul tiers quand même à 100% en télétravail. Donc qu'est-ce qu'on relève de cette première analyse ? Ben, les bienfaits, d'ailleurs, l'engagement des entreprises pour lutter collectivement contre la propagation du virus, pour protéger aussi leurs responsabilités vis-à-vis de leurs salariés par rapport à la sécurité sanitaire. On relève aussi un confort de la part des salariés, en particulier pour ceux qui travaillent à distance éloignée de leur domicile. Et donc c'est une maîtrise de leur emploi du temps qui est plus satisfaisante. C'est une baisse du stress et de la fatigue. C'est important. Et même si aujourd'hui les constats sont loin d'être définitifs, on relève quand même un certain nombre de limites à ce télétravail, en particulier pour les entreprises où le sujet de la cohésion, le sujet du partage de valeurs, de l'innovation, de l'émulation, il est en suspens dans ces logiques de télétravail où on communique à distance et on est dans un rapport finalement très factuel où on délivre une prestation. On mesure aussi une grande inégalité dans la pratique du télétravail, effectivement. C'est pas la même chose quand on est installé dans une belle maison avec un jardin, en plein été en particulier, ou dans un appartement non climatisé et non adapté au télétravail. Et puis le troisième point aussi, c'est le risque social du télétravail. On a parlé de la cohésion, mais on est aussi dans une logique de prestation, finalement, qui pourrait être amenée certains postes à être visés par la délocalisation. Donc ces sujets-là sont importants. On les a traités dans cette étude. Et d'ores et déjà, on peut se dire, là, il y a une étude intéressante de l'IOIF qui a traité le sujet de l'impact sur le parc des actifs tertiaires. C'est 55 millions de mètres carrés en Île-de-France. On peut mesurer, avec les baux qui perdurent encore pendant quelques années, que cet impact se fera progressivement au cours des 10 prochaines années et pourrait viser entre 5 et 10% des surfaces. Donc c'est un élément important qui va donner lieu aussi à une réflexion dans l'organisation du travail de la part des entreprises qui pourront mixer des solutions de télétravail à domicile ou en coworking et puis aussi des sièges qui vont continuer d'accueillir un grand nombre d'entre eux. Donc ce qu'on peut dire, c'est que cette crise sanitaire, elle a plus un effet de catalyseur de tendances qui sont déjà existantes plutôt qu'un effet déclencheur, et je crois que c'est le cas aussi pour le commerce.
Donc c'est plutôt un effet d'accélération qu'on concède de quelque chose qui était là sous-jacent.
Exactement, c'est d'accord. Un accélérateur
donc
de tendance.
Donc si finalement cette tragédie humaine sanitaire que nous avons vécue avait une vertu, elle aurait été celle de l'accélération finalement d'une prise de conscience déjà établie. C'est bien cela ?
On est tout à fait d'accord.
À vous, Cécile.
Alors justement, donc concernant le retail, les dernières années ont été fortement impactées par 3 crises successives. Les gilets jaunes, les grèves et enfin la crise sanitaire qui a amplifié ce phénomène. Les commerces physiques non essentiels ont davantage souffert des confinements et au couvre-feu successifs de 2020 et 2021. En dehors de ces périodes, nous constatons également des disparités entre les typologies de sites. Les centres commerciaux et centres-villes, c'est-à-dire les actifs les plus grands, souffrent le plus. L'ancien modèle de distribution du centre commercial qui consistait à ce que le textile soit le moteur, or le textile souffre en raison de problèmes éthiques ou encore à cause de la fragilité de la logistique avec la fermeture des frontières qui crée un manque d'approvisionnement. Les petites surfaces, notamment dans l'alimentaire, ont mieux performé que les hypermarchés. Cela peut s'expliquer par les restrictions, mais aussi par le changement de mode de consommation et l'évolution de la mobilité dans les agglomérations. Les clés du succès des enseignes qui s'en sont sorties le mieux sont la maîtrise de l'approvisionnement associée à un équipement digital, du drive, de la livraison et du click and collect. De plus, la nécessité d'un réseau et d'un maillage fin sur le territoire est essentielle. Concernant l'impact du e-commerce, la part du digital est passée, comme on le voit sur le graphique, de 8,8 en 2019 à 12,2 en 2020. par rapport aux ventes totales, au chiffre d'affaires total du marché. Et selon ses prévisions, l'expansion du e-commerce n'est pas prête de s'arrêter par rapport au commerce physique dans les prochaines années. Le e-commerce ne fera pas disparaître cependant le commerce physique, car les cyberacheteurs utilisent les sites de e-commerce disposant de magasins physiques de manière interactive en mode multicanal pour voir le produit avant l'achat en ligne et ou pour pouvoir faire appel à du ACV ou les conseils du vendeur. Il est important de noter que l'augmentation du télétravail a aussi impacté les commerces situés dans les centres-villes à dominante tertiaire, dont l'activité repose sur les salariés. Le développement du télétravail priverait les commerces alentours de leur clientèle, qui serait donc amenée à baisser le rideau. Pour terminer sur une touche optimiste, les commerçants sont par nature persévérants et agiles. La réouverture des commerces, tout particulièrement dans la restauration, montre actuellement une dynamique et des performances très encourageantes. Voilà, je vais vous dire également quelques mots de la logistique, hein, qui est très connectée au commerce. C'est la slide suivante. Donc le développement et la maîtrise d'une mobilité des biens décarbonés représentent aujourd'hui l'un des défis majeurs auxquels les villes doivent faire face. L'explosion des volumes de e-commerce, la réorientation des livraisons en B2C, la mise en œuvre opérationnelle des zones à faible émission, l'utilisation des voies fluviales, le développement d'une logistique urbaine vertueuse est une réponse efficace à ces enjeux, sans oublier qu'elle est une source d'emploi diversifiée pour la ville de la métropole. La métropole du Grand Paris déploie 2018, je pense que M. Benisset en reparlera beaucoup, depuis donc 2018, le pacte de la logistique urbaine signé par 80 professionnels et collectivités au travers de 12 mesures animées par des comités opérationnels. L'accroissement exponentiel des flux, leur concentration au cœur des grandes villes, la diversification accélérée des activités du dernier kilomètre conduisent ainsi les professionnels de la supply chain à remettre à plat leur stratégie d'implantation, que ce soit la taille ou la localisation des sites logistiques. Des changements visibles illustrent déjà les grandes tendances de fond de l'évolution de la logistique urbaine, comme par exemple le renforcement des circuits courts, le développement de solutions digitales pour le suivi en temps réel des livraisons, des modes de livraison innovants comme les drive piétons, les click and collect, et sous toutes leurs formes, vélos, véhicules utilitaires, l'intégration des petits commerces dans la chaîne de livraison à domicile, la montée en puissance des problématiques sociales liées à la sous-tarification des coûts de livraison. Le travail à accomplir dans les prochaines années est encore considérable, car la logistique est face à de nombreux freins, notamment réglementaires. En particulier, le PLU n'intègre pas la logistique urbaine.
Emmanuel.
Alors, après la logistique, c'est vrai qu'on touche du doigt le sujet des transports, mais plus globalement, on s'est intéressé aux enjeux écologiques sur la ville et sur les actifs, en remettant en perspective la signature des accords de Paris, il y a maintenant 5 ans, et puis derrière l'approbation de la stratégie nationale bas carbone de la France, qui vise à maintenir à 1,5 degré la hausse des températures d'ici 2100, et pour ça, il faudra passer par une neutralité carbone en 2050. Nous sommes intéressés à regarder le sujet pour deux secteurs importants, particulièrement contributeurs, en tout cas en première ligne sur cette défense du dérèglement climatique. Ce sont les transports et, bien sûr, le bâtiment. Pour ce qui est des transports, vous avez là le calendrier qui a été approuvé à la fois par la ville de Paris et par la métropole du Grand Paris, un calendrier volontariste qui souhaite limiter et interdire en fait la circulation d'ici 2030 de tous les véhicules à moteur thermique. Pour les particuliers, cette tendance, elle a déjà démarré. Et les premiers impacts positifs pour notre métier et l'implantation des actifs, c'est sans doute la requalification de tout le territoire qui est en proximité directe avec le périphérique. Et l'on voit des projets, à l'image du projet de Brunzo, qui viennent traiter cette couture entre la ville de Paris d'un côté et puis la première couronne de l'autre, et qui vont créer une continuité urbaine qui n'existait pas auparavant avec ce périphérique qui va être assoupli et assagi, on va dire, et sans pollution et sans nuisance sonore. Pour ce qui est des transports routiers, et en particulier pour ce qui concerne la logistique, l'enjeu est encore difficile à relever parce qu'il n'y a pas d'alternative pour l'instant pour les poids lourds aux énergies fossiles, en attendant les avancées du moteur à hydrogène. Pour ce qui est du bâtiment, la carte que vous allez voir montre en fait que 80% des surfaces de bureaux de plus de 1000 m² sont antérieures aux années 2000. C'est-à-dire qu'on est sur un parc tertiaire avec une obsolescence importante. Et d'ailleurs, le secteur du bâtiment a une grande marche à franchir pour se mettre dans les objectifs de l'accord de Paris. Nous avons une diminution des gaz à effet de serre de 55% à traiter d'ici 2030. Donc c'est très important. Et c'est tout un chantier de transformation qui s'ouvre pour le secteur du bâtiment, avec en particulier des transformations qui visent à améliorer les bilans carbone des bâtiments. Donc on parle de construction bois, on parle de matériaux biosourcés. Et ces transformations, elles vont aussi interagir sur l'usage, des usages nouveaux qui vont nous permettre d'adresser en fait une population qui attend, suite à la crise sanitaire, d'autres agréments dans le bureau d'aujourd'hui, le bureau de demain surtout. Après l'échelle du bâtiment, on va traiter l'échelle du quartier, avec un enjeu qui est le premier, qui est celui de réduire en fait ces déplacements pendulaires, en particulier les déplacements parasites entre le domicile et le travail, parce que le travail est éloigné dans un certain nombre de cas en Île-de-France du domicile. On a beaucoup travaillé sur le concept de la ville du quart d'heure, qui nous a été présenté par Carlos Moreno, qui est un chercheur, et qui s'est attaché à réfléchir sur une ville polycentrique, où on puisse raisonner à l'échelle du piéton ou du cycliste, en ayant toutes les aménités à proximité directe, et dans le quart d'heure, en fait, accessibles directement. Donc ce sont les commerces, mais ce sont aussi les équipements publics et les services. Et cette ville du quart d'heure, elle abaisse non seulement le bilan carbone de chacun des citoyens, mais elle crée aussi beaucoup d'agréments à vivre en ville. Vivre dans une ville dense, plutôt que dense, on va parler de ville intense. C'est-à-dire que c'est des villes où finalement la qualité des services, la qualité de traitement des nouveaux bâtiments et des nouveaux quartiers, avec une attention particulière portée aux îlots de fraîcheur, c'est-à-dire comment on abaisse la température en période caniculaire, elle crée du bien-être et elle permet aux franciliens de rester en Île-de-France et de profiter de l'attractivité de cette région. Vous savez que c'est un véritable enjeu. Je parle face à un maire qui est aussi vice-président de la métropole. C'est un véritable enjeu de convaincre nos élus de nous délivrer des permis de construire. Et pour cela, on doit être irréprochable sur les ambitions bas carbone, en particulier de nos immeubles.
Et on voit bien d'ailleurs sur l'infographie que vous voyez, mesdames et messieurs, les 17h52, si vous venez de vous connecter, les 6 raisons finalement très bien décrites, justement, qui sont accompagnés de ce type de mouvement.
Voilà, ce qui caractérise ce schéma, c'est la multifonctionnalité, en fait, de ces quartiers, où on peut y travailler, on peut y vivre, on peut y faire du commerce, on peut étudier, on peut se cultiver, et on peut y faire du sport.
Et donc... Et se soigner.
Et se soigner, exactement. C'est particulièrement important dans la période que nous traversons.
Absolument.
Voilà, Cécile, pour ce qui concerne de ces deux analyses. Donc, sous l'angle
on va parler de la ville mixte. Voilà. Est-ce que la ville sera mixte demain, donc complètement mixte?
Ah Cécile. Oui, nous on pense énormément que les bâtiments vont être hybrides, vont répondre à plusieurs usages selon les périodes de l'année, les jours de la semaine, les heures de la journée. Ça fait vraiment clairement partie de nos réflexions, c'est-à-dire un meilleur usage, un meilleur partage de l'ensemble des installations, des équipements pour une meilleure mutualisation.
Vous savez ce que ça m'inspire ? Ça m'inspire, ne passons-nous pas d'une économie de la propriété à une économie de l'usage ? Quelque part.
Oui, c'est vrai. On l'avait déjà observé avec la mutualisation d'un certain nombre d'équipements, en particulier toutes les logiques de coworking, de co-living qui sont en place déjà depuis plusieurs années. Mais encore une fois, cette crise sanitaire, finalement, plus qu'un élément déclencheur, c'est vraiment un accélérateur de tendance, et y compris pour ces sujets d'usage, où on voit bien que ce qu'on a vu tout de suite dès les premiers mois du confinement, le rapport à l'extérieur, qui était devenu très important pour les ménages dans le domicile, il prend aussi sa place dans le bureau, avec des attentes pour les salariés, avec d'entreprises qui vont avoir en fait une compétition entre le bureau et le domicile pour faire venir leurs salariés au bureau et maintenir cette cohésion sociale. Mais il faudra que les bureaux évoluent. Et là, je passe la parole à Cécile, qui va nous parler du bureau de demain.
Absolument.
Voilà, donc on passe là maintenant aux préconisations. Donc oui. Tout ce travail finalement... vise à vous présenter de manière très synthétique une quinzaine de préconisations que nous avons regroupées en 3 grands chapitres. Nous sommes partis du général, la ville, vers les actifs immobiliers ensuite, d'abord le tertiaire, puis le résidentiel. Et même si le RIE a réalisé de très nombreuses études de grande qualité et couvert un vaste champ de réflexion depuis de nombreuses années, il nous semble que le résidentiel, en fait, n'avait jamais occupé une telle place dans nos travaux. N'est-ce pas, Antoine ? Rappelons que le périmètre de l'ORIE est bien l'immobilier d'entreprise en Île-de-France, mais de plus en plus, il y a donc cette imbrication cette hybridation de toutes les typologies d'usage. Voilà, donc on va passer effectivement aux préconisations. Je vais vous les lire parce que ces textes, ils ont fait l'objet de relectures nombreuses, de débats. Il a fallu mettre d'accord, c'est la richesse de l'OIRIE d'arriver de manière convergente entre l'ensemble des verticales métiers et avec la pluralité des professionnels, que ce soit le public, le privé et tout leur parcours, à accoucher ensemble de préconisations qui pouvaient, et c'est toute cette parole que nous pouvons porter donc à l'ensemble de nos interlocuteurs, à commencer par le gouvernement, bien sûr, qui nous interroge régulièrement en tant qu'instance, pour faire évoluer le débat. Notre optique, c'est vraiment d'apporter notre pierre à la réflexion et aux évolutions. Donc la première planche, c'est vraiment sur cette ville intense, mixte et de qualité qu'Emmanuel a commencé à décrire. Donc nous avons dans cette catégorie-là trois préconisations qui sont premièrement de concevoir les futurs projets immobiliers pour différents usages. Donc c'est vraiment cette réflexion en amont sur la flexibilité et l'évolution de la ville. Encourager les acteurs du développement urbain et apporter à la ville un bien d'intérêt collectif. Alors ça, on en a énormément parlé. Et c'est pas la Caisse des dépôts que, je pense, on a beaucoup de choses à partager, puisque vraiment, c'est l'objet même de la Caisse des dépôts. Et renforcer donc l'intégration des espaces de logistique dans le PLU. On a déjà un petit peu parlé. Parce que les zones urbaines denses nécessitent vraiment de raccourcir les temps de trajet pour la livraison des différents colis. Voilà donc sur l'organisation de la ville, pour la rendre plus intense, plus mixte et pour en améliorer la qualité. Voilà les trois grands axes structurants sur lesquels on débouché cette étude. Voilà.
On enchaîne toujours avec vous. La crise sanitaire donc, voilà, a montré que les acteurs doivent s'adapter. C'est bien cela.
Alors, on a aussi beaucoup parlé de tertiaire pour finalement aboutir à une seule recommandation. Et beaucoup des participants de l'étude nous ont challengé. Vous n'avez pas plus de recommandations à donner? Est-ce que voilà, vous n'en oubliez pas au passage, etc. Mais en fait, il y avait une telle convergence du point de vue, et on en reparlera dans les questions, sur ce qu'attendent les utilisateurs, ce dont ont besoin les entreprises pour faire évoluer donc cet environnement de travail, que finalement, on a une seule recommandation à proposer, qui est donc la suivante. Donc promouvoir les bureaux de nouvelle génération, qui sont basés sur la collaboration de l'ensemble des acteurs de l'immobilier, impliqués dans la conception et l'exploitation des immeubles et en intégrant une certaine flexibilité, un ensemble de services et les nouvelles réglementations ERP. Alors qu'est-ce que ça veut dire principalement? C'est qu'il faut vraiment faire remonter l'exploitation très en amont de la conception des bâtiments, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, ces immeubles opéraient avec énormément de services, avec une très grande vitalité, une très grande adaptation, nécessite vraiment que ces interlocuteurs aient tous été là au moment de la conception. Parce que sinon, si on construit des immeubles dans un premier temps, puis qu'après on se préoccupe de savoir comment ils vont fonctionner, on se rend compte d'oubli, d'aberration, ou alors encore pire, on doit démolir. Et ça, c'est vraiment un grand gâchis des choses parce qu'elles ont mal été conçues au départ. Donc nous, on plaide vraiment pour un rassemblement de l'ensemble des professionnels pour que, dès le départ, on pense aux conséquences de cette exploitation et aux besoins des différents acteurs, en particulier la restauration, mais toute l'animation, l'événementiel, tout ce qui va autour de ce fameux travail collaboratif dont on parle beaucoup. C'est pas une fois que les immeubles sont livrés qu'on se préoccupe de savoir comment on va les faire fonctionner. C'est vraiment en amont qu'on associe les professionnels de ces immeubles opérés et de ces services qu'on va offrir aux occupants. Emmanuel, je vais te passer la parole, parce que là, c'est le gros morceau des préconisations. C'est
absolument
finalement tout ce travail qu'on a fait, voilà, par rapport au devenir des immeubles tertiaires, parce qu'on sait que certains vont être libérés. Que va-t-on en faire?
C'est donc voilà, le troisième champ.
C'est notre dernière partie, justement, qui va aboutir au débat. En tout cas, je peux vous dire que, vu comment ça répond, c'est extrêmement riche. Je vous rassure, je rassure les amis. Voilà, il est 18h, vous êtes connectés. Comme l'a rappelé le président Derville, vous aurez la possibilité de télécharger l'étude, n'est-ce pas, Antoine, sans problème, pour avoir tous les éléments. Et merci aussi de saluer le travail de fond qu'a fourni Emmanuel Desmaizières et Cécile de Guilbon. Voilà, c'est important de le dire.
Merci. Donc le troisième champ de préconisation, il vise effectivement à faciliter la transformation des bureaux en logements. L'Île-de-France, on le sait, est toujours très attractive, et c'est une chance, avec 50 000 nouveaux habitants qui arrivent tous les ans, et un déficit estimé de logements de près de 400 000, donc c'est 3 années de production, c'est important. Et avec le paradoxe, alors qu'on est dans une crise économique, d'avoir des prix qui continuent de monter et qui désolvabilisent un bon nombre de jeunes ménages en particulier. Une crise de l'offre, on en a parlé. Et donc cette transformation du parc obsolète, et on peut l'estimer entre 3 et 5 millions de mètres carrés sur l'ensemble de l'Île-de-France, elle peut donner lieu à de nouvelles opérations de logement. Donc on s'est attaché avec le groupe de travail, avec Cécile, de prendre les leviers qui pourraient permettre effectivement cette transformation qui est difficile. Elle est difficile d'un point de vue technique, parce qu'elle nécessite une réhabilitation lourde qui impacte les noyaux, qui impacte la façade. Elle est difficile d'un point de vue fiscal, avec une fiscalité qui n'est pas la même entre le logement et le bureau. Elle est difficile d'un point de vue réglementaire. Donc le premier bras de levier, c'était finalement d'aider à mettre en œuvre la loi Elan, qui prévoit un certain nombre de dispositifs, de dispositions, et en particulier sur des sujets de gabarit, avec la possibilité d'avoir une augmentation de gabarit et de surface de 30% pour transformer du bureau existant en logement, et un dispositif qui est trop peu appliqué. Donc on a travaillé sur ce point-là, sur des sujets de parking aussi. C'est très difficile de créer des places de parking.
Quand vous parlez de gabarit, on parle de surélévation, hein.
On peut parler de surélévation, on peut parler aussi de morphologie et d'extension.
D'accord. Et d'extension, ok, d'extension
en qui est en fonction de la parcelle.
D'accord, absolument.
Et donc ces sujets-là sont importants, parce qu'ils permettent de retrouver de la surface, donc recréer de la valeur. Okay. Le parking aussi est très coûteux, et parfois il n'est pas indispensable. Et donc ces thématiques-là, on les a relevées dans un premier chapitre de préconisation. Ensuite, on a travaillé aussi sur des contraintes réglementaires de copropriété, c'est-à-dire des lois, des règles d'élection pour transformer du bureau en logement, qui sont à l'unanimité et qui rendent très difficile, dans le cadre de copropriété, ces transformations, pour les mettre aux majorités, à la double majorité.
D'accord. Ou une majorité ordinaire dans
la double majorité.
Dans une double majorité.
C'est déjà une belle avancée. Et puis ensuite, sur les incitations fiscales, donc là, je vous invite à voir le rapport, c'est très technique, mais sachez que les travaux neufs, si on dépose la façade complètement, on est qualifié en travaux neufs, et donc assujetti à une fiscale de 20%, ce qui pénalise très fortement ces transformations d'opérations de bureaux en logement. Donc voilà pour ce qui est de ce travail. Et encore une fois, il s'est mené dans des conditions difficiles, à distance, mais en tout cas avec beaucoup d'implication de l'ensemble des membres de ce groupe de travail, qui étaient très nombreux à nos côtés.
Écoutez, bon, permettez-moi de vous dire qu'il y a beaucoup d'ingéniosité dans votre réflexion. Donc on voit aussi le socle professionnel dont vous avez fait preuve. Et puis il faut surtout pas se tromper, en fait. Il y a quelque chose qui est en train de se produire, qui tient plus d'une transformation anthropologique qu'autre chose. Donc une anthropologie des villes amène un changement radical des paradigmes. Et c'est vrai que quand on a vécu sur des modèles basés sur des cash flows, sur des flux, changer le scope ou le logiciel de réflexion qui a parfois un peu rendrait peu poreux finalement les univers, c'est une gymnastique que vous avez su faire, et d'ailleurs je salue effectivement les travaux de l'OIRI. On va en parler tout de suite, c'est l'heure du débat et justement de ces échanges. Merci à Emmanuel Desmaizières, et vous restez avec nous sur le plateau, et Cécile de Guilbon, c'est parti pour le débat. Extrêmement intéressante cette étude, qui nous donne véritablement des axes de réflexion. Marianne Louradour, quelle est votre réaction ?
Écoutez, oui, je trouve cette étude particulièrement intéressante. J'ai pris un immense plaisir à la lire et à la découvrir. Je la trouve très, très dense, très travaillée, très fouillée. Il y a beaucoup de données, hein, beaucoup d'exploitation de données, avec ces illustrations par graphique qui sont très, très prégnant. Et donc, je rejoins les félicitations du président à Raphaël Zépa, qui est en régie et qui a réalisé cette étude. Et puis, évidemment, aux deux pilotes, Cécile de Guilbon et Emmanuel Desmazières. Il y a deux éléments particuliers qui m'ont frappée, moi, dans cette étude. Le premier, c'est la vision extrêmement globale que vous avez prise pour analyser un actif, en l'occurrence un actif tertiaire, et vous l'avez étudié dans toutes ces interactions complexes et systémiques avec la ville. Vous l'avez regardé et vous l'avez analysé évidemment avec l'interaction transport, domicile-travail, ça c'est assez habituel, mais vous l'avez aussi analysé à travers ces interactions avec le commerce, vous avez été chercher ces interactions avec la logistique urbaine, vous l'avez analysé avec le quartier, avec sa proximité, ses interactions avec ce quartier, cette ville du quart d'heure, et puis vous l'avez aussi regardé avec ses interactions finalement avec la planète, puisque vous l'avez regardé avec ses interactions sur le climat, sur l'empreinte carbone. Donc je trouve que ça donne un relief très intéressant, très moderne d'ailleurs, sur la vision actuelle de la ville. Je pense qu'une étude comme ça, il y a 20 ans, on aurait regardé l'actif par rapport à son transport, et là on le regarde vraiment dans une vision très, très systémique. Et la deuxième élément qui m'a marqué, et finalement qui m'a réjoui, c'est que vous avez analysé la crise du Covid dans ce qu'elle a de sa capacité à accélérer des tendances, à apporter des innovations, à apporter des nouveautés. Vous l'avez dit au début de l'émission, Sylvain, on a besoin de positif après cette crise qui a été quand même une crise extrêmement brutale, qui a été une crise mondiale, qui a été une crise totale, qui a concerné l'offre et la demande. La demande, 450 000 Parisiens sont partis, qui ont quitté Paris. Et d'ailleurs, je rappelle que pour une fois, on était en front renversé avec l'Île-de-France qui a plus souffert que la France et Paris qui a plus souffert que l'Île-de-France. Donc ce front renversé qui a été très, très prégnant pour l'Île-de-France. Et ça nous fait vraiment du bien d'avoir des études qui vont chercher ce qu'on va pouvoir retirer en termes d'innovation, peut-être d'ailleurs disruptive, en tous les cas des nouvelles tendances. Et ça, je trouve que c'est un élément particulièrement intéressant de l'étude.
Merci beaucoup, Marianne. Avant de vous donner la parole, Jacques-Alain Benisti, je vous propose, puisque vous me permettez cette transition, on croirait que tout est écrit à l'avance, de voir un reportage. On s'est permis d'aller sur le terrain pour qu'on prenne corps avec la réalité. Alors, c'est un reportage qui a été tourné. D'ailleurs, je voudrais vraiment remercier ICAT Promotion. Vous avez vraiment super bien joué le jeu. Et mille merci à Caroline Vaubourgoin de nous avoir reçus près d'un chantier à Issy-les-Moulineaux. Je rappelle qu'elle est directrice générale adjointe tertiaire Île-de-France au syndicat de promotion. Il est très court ce reportage, mais il est très illustrant. Je vous propose qu'on le regarde tout de suite.
De la démarche environnementale, c'est d'abord le choix de restructurer cet immeuble-là. En effet, le fait de le restructurer par rapport à l'option de le démolir et de construire un bâtiment neuf permet d'économiser 50% du poids carbone du projet. La démarche environnementale, elle se traduit aussi par l'utilisation de matériaux en renfort. Par exemple, tous les planchers techniques sont issus du renfort, par la réutilisation des pierres de façade. C'est aussi l'utilisation de matériaux de basse consommation, comme par exemple les LED. C'est autant d'éléments qui veulent en faire un immeuble vertueux. Et la crise sanitaire a mis en perspective que dans le travail, il y avait des missions qu'on pouvait réaliser seul et puis des missions qu'on ne pouvait pas réaliser tout seul chez soi. Donc, dans l'immeuble, nous avons essayé de privilégier tous ces lieux de rencontre qui permettent un travail collaboratif, un travail collectif, des réunions d'échange pour permettre aux collaborateurs de retrouver ce sentiment d'appartenance à l'entreprise. On a donc installé de nombreuses salles de réunion, on a optimisé la densité avec une personne pour 8 mètres carrés et dans certains espaces jusqu'à une personne pour 6 mètres carrés. On a multiplié les rooftops, les terrasses, les espaces de rencontre informels, le grand auditorium que vous voyez derrière moi et qui permet autant de lieux de rencontre et d'échange. ICAT travaille à une nouvelle offre de bureau, naturellement au bureau, qui est le pendant de la nouvelle offre résidentielle, naturellement chez soi. Nous pensons que le siège social de l'entreprise est un hub, c'est le lieu de rencontre de tous les salariés, le lieu où ils se retrouvent, ils échangent, ils travaillent ensemble. Et donc cette nouvelle offre de bureau va être repensée pour proposer à l'ensemble des salariés tous ces espaces Et puis évidemment, en rajoutant de la nature en ville, des balcons, des espaces extérieurs, sans oublier bien sûr toute la dimension de connectique et aussi la qualité des espaces de bureaux qui ont été mis en évidence lors de la crise sanitaire.
Merci beaucoup. Formidable reportage qui illustre bien le propos. Jacques-Alain Benisti, quand vous voyez l'homme politique que vous êtes, quand vous voyez toutes ces initiatives extrêmement ingénieuses, qu'est-ce que ça vous inspire et quelle réaction vous avez ?
Alors, il y aurait beaucoup à dire, évidemment, sur ce que je viens d'entendre. D'abord, dire que cette étude souligne au moins 5 enjeux que la métropole déjà a pris à bras-le-corps. Le premier, et je crois qu'on n'en a pas vraiment assez parlé dans cette étude, c'est de rapprocher le travail du domicile. Quand vous avez cet objectif, ce que nous avons à la métropole, vous réglez déjà un grand nombre de problématiques. Si j'entendais parler, effectivement, il est mentionné dans cette étude, la ville du quart d'heure, lorsque les habitants de l'Est parisien passent entre 2h et 4h30 dans les transports, il est difficile d'envisager la ville du quart d'heure. Donc, ce que nous avons fait d'abord à la métropole, c'est déjà de se fixer des objectifs. On sait que, malheureusement, il faudra corriger des erreurs du passé. Les erreurs du passé, on l'a laissé faire. Le fait de dire à l'ouest de la capitale, ce sont les bureaux, à l'est, les logements. Ces problématiques-là ont engendré évidemment un grand nombre de malaises, évidemment, sur toute l'île de France, pas essentiellement sur la métropole, où effectivement les habitants de l'est devaient rejoindre l'ouest pour pouvoir travailler. Donc, ça a été la première erreur qui a été constatée. On l'apprend, nous, en tant que tels, nous, les politiques. C'est vrai que c'est des décisions politiques qui ont fait en sorte de mettre tous les bureaux donc à l'ouest et tous les logements, y compris les logements sociaux, donc à l'est. La métropole veut corriger, donc veut rééquilibrer totalement cela. C'est la raison pour laquelle, dans Inventons la métropole 3, par exemple, l'un des premiers enjeux donc de cette troisième phase d'Inventons la métropole, c'est déjà de transformer effectivement ces bureaux qui sont pour la plupart désaffectés, quelquefois qui ont été désaffectés depuis une quinzaine d'années, de les réaffecter et de les changer en bureaux. Toutes les friches industrielles. On a une multitude de friches industrielles sur la métropole et en Île-de-France qui sont restées pendant des années comme cela, sans rien faire. Prenons le projet de la VDO, par exemple, ce qu'on appelle la VDO, la voie de dessert orientale qui devait relier la ville de Créteil à l'autoroute A4 pour rejoindre, pour en faire un peu un A87, puisque c'était son nom au départ. Eh bien, on a dégagé des friches gelées par l'État pendant 50 ans et que aujourd'hui, qui vont voir déboucher des projets extrêmement importants, notamment donc à l'est parisien. Le deuxième élément, c'est également de repenser la ville de demain, c'est-à-dire les quartiers, ce que j'appelle du troisième millénaire. On a plusieurs projets, dans les 77 projets d'Inventons la métropole, qui ont justement ça à leur actif, c'est-à-dire pour régler justement ces problèmes de réchauffement climatique, nous allons essayer de faire en sorte que l'ensemble des projets que nous présentons sont des projets bas carbone, énergie positive. Donc c'est déjà un premier plan. Si on prend, par exemple, le plus grand des projets Inventons la métropole, qui se trouve dans ma ville, qui est Marne-Europe, eh bien, tous les bâtiments seront construits donc, en bois à 60%, qui pourra donc permettre, justement, d'aligner ce bas carbone sur l'ensemble du site. Nous allons également créer des balcons supplémentaires, puisque maintenant, les gens ne peuvent plus supporter de rester enfermés dans les appartements. Donc on crée là des balcons importants dans les différents logements et on crée des espaces de vie également pour les bureaux. Il va y avoir donc 91 000 m² de bureaux justement sur ce site. Sur ces 91 000 m² de bureaux, il y a toute une vie que nous allons inventer, réinventer à l'intérieur justement de ces bureaux. Au bas, nous créons un espace vert de 2 hectares avec une connotation un peu guinguette, puisqu'on est au centre de la boucle de la Marne, c'est-à-dire qu'on veut créer une vie entre midi et 2 heures, là où on essaye de un petit peu sortir de ses bureaux et se détendre, etc., on se descendra dans la verdure, avec des cafés, bars, guinguettes qui seront donc en bas. Donc on recrée une vie à l'intérieur, évidemment, de ces bureaux qui n'existaient pas, donc évidemment, auparavant. Quand vous voyez la Défense, trouvez-moi un espace vert ou un arbre qui puisse pousser et qui permette justement à ceux qui sont enfermés dans leur tour, évidemment, de pouvoir s'oxygéner, ne serait-ce qu'au moins une heure ou deux dans la journée. Ensuite, l'autre élément important, la métropole, on a voulu penser à l'air extérieur, mais aussi à l'air intérieur. On met en place, dans la plupart des grands projets, un système EDF de, je dirais, brassage de l'air. C'est un système qui est homologué, qui est unique au monde, et qui est fait par une entreprise française, qui est l'EDF, qui a d'abord été expérimenté à l'hôpital Saint-Louis. À l'hôpital Saint-Louis, vous savez qu'il y a les grands brûlés. On ne meurt pas de ces brûlures, on meurt des maladies nosocomiales qui viennent sur, évidemment, ensuite sur les malades. Eh bien, grâce à ce système de brassage de l'air, on permet aujourd'hui de sauver des grands brûlés, brûlés à 80%, qui n'existaient pas, ne serait-ce il y a quelques années. Eh bien, ce système, nous allons le mettre également dans l'ensemble des bureaux. L'ensemble des tours qui seront construits, notamment à Malropes et dans bon nombre des 77 projets, eh bien, il y aura ce système de brassage de l'air qui évitera... Alors, au départ, quand on a voulu le créer avec l'EDF, c'était pour éviter les contagions. Aujourd'hui, on veut éviter les contaminations par le problème de la Covid, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on est à la troisième vague, on aura une quatrième, peut-être une cinquième, etc. Je pense qu'il va falloir raisonner et vivre, malheureusement, avec ce fléau dans les années qui vont venir. C'est la raison pour laquelle, à la métropole, on a réagi bien en amont, mais c'était pour régler simplement les problèmes d'épidémie, de grippe, de gastro, etc. Parce que quand vous avez dans une tour une épidémie, c'est l'ensemble de la tour qui est évidemment contaminée, et donc les patrons se plaignent évidemment de voir partir l'ensemble de leur personnel. L'autre élément également... qui était mis dans cette étude, c'est la montée en puissance des enjeux logistiques. Donc nous avons réalisé, donc, avec la métropole, un pacte logistique avec différentes actions. C'est faciliter la transition énergétique des véhicules dans le cadre de la zone à faible émission, la ZFE, donc, qui part donc, de Paris jusque pour l'instant à la 86, qui va révolutionner un petit peu ça. Alors certains disent, oui, mais enfin, il va y avoir des familles qui n'ont pas la possibilité de se payer des véhicules électriques. C'est faux. 19 000 euros aujourd'hui pour une famille en très grande difficulté, avec toutes les subventions qui se cumulent. Donc la possibilité pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens de changer son véhicule qui pollue à un véhicule...
Et ce qui démontre, Jacques-Alain Ménisti, parfois la faible information dont disposent les usagers, parce que ce que vous dites est très juste, mais dans la perception du public, c'est pas du tout la même chose.
On a peut-être un problème de communication. Mais absolument. Aussi, on le prend pour nous.
Absolument. Et d'ailleurs, quand on fait les études justement sur le changement des étiquettes par rapport à, et vous en avez parlé tout à l'heure, puisque on est d'accord, les voitures avec les moteurs à essence ou diesel sont condamnées. À moyen terme. Donc il n'y aura plus de véhicules avec des énergies fossiles dans Paris, mais comme dans les grandes métropoles d'Europe, bien évidemment. Et je pense qu'effectivement, la pédagogie réduit l'impact de l'anxiété des personnes, justement, lorsqu'on leur parle de ce sujet.
Absolument. Surtout qu'ils sont condamnés à prendre quand même leur véhicule pour aller travailler. Heureusement, j'étais rapporteur du Grand Paris, on expliquait bien cela. C'est-à-dire que si on veut limiter le nombre de véhicules sur l'ensemble du territoire de la métropole, il faut bien évidemment proposer des moyens de mobilité dignes de ce nom. Et c'est vrai que le Grand Paris Express va permettre de ça. À l'époque, donc il y a une dizaine d'années, quand je défendais ce projet, je disais que ça allait limiter 150 000 personnes personnes qui prenaient leur véhicule qui utiliseraient désormais les transports en commun, si ces transports en commun, évidemment, fonctionnaient très bien. Mais je reprends pour la logistique, c'est de repenser la logistique du dernier kilomètre, parce qu'on a de plus en plus de livraisons, donc de plus en plus de pollution, parce que malheureusement, les livraisons qui sont faites par des camionnettes, quelquefois par, je ne citerai pas les sociétés qui les utilisent, mais qui sont extrêmement polluantes. Pour nos centres-villes, par exemple, on est pollué au maximum. Heureusement, la région a rectifié le tir avec ses bus. Maintenant, on a des bus qui ne sont plus polluants. Il faut donc un dernier kilomètre. Et on est en train de s'organiser sur tous les projets, les 77 projets d'Inventons la métropole, pour mettre des bases logistiques à l'intérieur pour que le dernier kilomètre soit... Alors, on utilise le domaine fluvial. On utilise les voies ferrées qui ne sont pas utilisées. La petite ceinture n'est absolument pas utilisée. Nous l'avons utilisée sur les grands projets, notamment sur l'évacuation des terres polluées. À Villiers-sur-Marne, donc il y a eu plus de 160 000 mètres cubes de terre évacuée par le domaine ferroviaire. Donc c'est autant de pollution en moins de camions traversant les centres-villes, etc. Donc l'autre élément également que j'ai noté, évidemment, c'est la nécessité de redynamiser les centres-villes.
Bien sûr.
Les centres-villes, je dirais, c'est le côté... parce qu'il y a quand même des côtés un peu positifs de cette crise. Heureusement, je vois que dans ma ville et dans les autres villes du territoire, on a vu revenir donc nos administrés dans les centres-villes, ce qui n'était pas auparavant. Maintenant, ils refusent d'aller dans les centres commerciaux parce qu'ils savent pertinemment qu'ils ont beaucoup plus de risques de se faire contaminer aujourd'hui dans les grands hyper importants que connaît la
c'est la revanche des centres-villes. Hein.
C'est la revanche des centres-villes et je pense...
Et je veux dire que vous, les maires de ville, vous avez aussi parfois, en rendant le tout piéton ou priver un certain nombre de personnes des accès. Donc aujourd'hui, il y a un phénomène d'opportunité et d'opportunisme très intéressant qui revitalise les cœurs de ville.
Absolument. Et on a donc dégagé, nous, des fonds à la métropole. On a un programme centre-ville vivant qu'on développe un petit peu dans tous les quartiers de toutes les villes, des 143 villes de la petite couronne, pour essayer de redynamiser un petit peu ces centres-villes, mais aussi pour booster un petit peu nos administrés pour aller justement redynamiser toute la partie commerce.
Alors justement, je vais revenir là-dessus, si vous voulez bien, Jacqueline Messi. Je voudrais vous donner la parole, Marianne Loadour. Tout à l'heure, Jacqueline a très justement parlé, il faut le dire, parce qu'on peut se dire les choses aussi, il y avait comme un clivage ou une opposition entre l'Est et l'Ouest, pour le dire. Il y a eu des tentatives, hein, quand même, d'aménager l'Est parisien sur des surfaces tertiaires. Hein. Je rappelle le projet à la base des Mercuriales qui donnait naissance à une certaine époque d'un équivalent, et vous l'avez connu à cette époque, un équivalent de ce que pourrait pu être la Défense. C'était une réponse du berger à la bergère dans une certaine mesure.
Pas que ça, excusez-moi, Sylvain, oui. mais il y a eu la création des villes nouvelles, qui effectivement était quand même un échec parce qu'elle a créé des flux. Plutôt que de créer des endroits où les gens allaient travailler et allaient vivre. Elle a créé ces flux infernaux aujourd'hui. Et puis, il y a eu l'agrément utilisateur, qui a été une politique qui, à un moment, a été utilisée. Mais il y a un moment où on ne force pas un âne à boire quand il n'a pas soif.
C'est clair.
Et que voilà, les grands centres de développement de bureaux sont, comme dans toutes les villes du monde, plutôt à l'ouest, et que le rééquilibrage, effectivement, a été difficile à faire. Et je crains, malgré tout, qu'il sera difficile à contrebalancer dans les années qui viennent. Mais je pense qu'on s'éloigne un peu du sujet.
Si alors, voulez, justement, si je voulais poser cette question pour ramener si justement le sujet sur l'impact du télétravail sur l'aménagement du territoire francilien. Vous, Marianne Loradour, quand vous l'observez, quelles conclusions vous en tirez aujourd'hui par rapport au projet urbain?
Il y a un élément qui peut faire bouger un peu les lignes sur l'aménagement du territoire francilien. Et d'ailleurs, c'est un élément qui est dans l'étude. C'est les tiers-lieux. En fait, c'est l'aménagement des tiers-lieux. C'est-à-dire qu'on peut sortir de la vision binaire. Je travaille chez moi ou je travaille dans l'entreprise, dans un grand siège social à la Défense. Et se dire qu'on peut aller équiper des lieux dans des zones... plus lointaine, notamment peut-être dans la Grande Couronne, pour pouvoir offrir une offre de travail, une offre d'équipement, une offre de service à des salariés qui se retrouvent à avec d'ailleurs des envies qui peuvent être très très différentes. C'est-à-dire que on n'a pas les mêmes besoins quand on est à Paris et qu'on télétravaille chez soi, qu'on est dans un petit appartement, éventuellement à 4 en co-living, et qu'on travaille dans sa cuisine et qu'on veut chercher en fait un tiers lieu pour trouver de la tranquillité, trouver de l'espace, trouver de services. Et c'est pas la même chose si on est à Rambouillet, on télétravaille à Rambouillet devant un écran de verdure, mais que peut-être on manque un peu de connexion, de haut débit, et on va aller chercher là, dans un tiers-lieu, d'autres éléments, et notamment de la collection et la sortie de l'isolement. Et du coup, il se peut que là aussi, on ait une accélération de tendance avec une archipélisation des lieux de travail, avec des équipements de ces tiers-lieux, alors qu'est une tendance qui a démarré dans les années 2010, hein, qui a été très poussée d'ailleurs par la région Île-de-France, qui a été poussée aussi par des appels à projets de l'État, et aujourd'hui, on a un petit millier de tiers-lieux en Île-de-France. Ça peut être une tendance intéressante, et ça peut constituer, en termes d'aménagement, le moment de la Grande Couronne, avec des collectivités locales qui, évidemment, sont très bénévolantes sur l'arrivée de ces tiers-lieux, qui créent des emplois dans les collectivités locales, dans leur collectivité, sur leur territoire, qui créent de l'animation, qui créent de la revitalisation. Et donc, effectivement, on a aujourd'hui, notamment, beaucoup de villes en Grande Couronne qui se posent ces questions d'investir dans ces tiers-lieux. Et je voudrais dire d'ailleurs que la Banque des Territoires, nous aussi, nous sommes très militants sur ces investissements qu'on peut encourager, qu'on peut cofinancer.
Est-ce que vous avez un exemple, pour qu'on puisse bien illustrer le propos, est-ce que vous avez un exemple à nous décrire ? Alors, d'un investissement que vous avez fait ou d'un projet qui illustre bien le propos ?
Alors, on est en train... Oui, alors là, il se trouve que on a fait... C'était d'ailleurs dans le cadre de Réinventons la Métropole. On a investi dans un tiers-lieu qui est à Paris, là. Il se trouve qu'il est dans la Grande Coco, qui est un lieu à la fois d'événementiel, à la fois de coworking. On a, et on va faire d'ailleurs notre rendez-vous de la relance sur le bateau Thalassa.
Génial.
Voilà, donc sur le bateau Thalassa, qui est devenu un tiers-lieu.
Le Wake Up Café.
Wake Up Café, bravo, vous le connaissez. Vous êtes invité le 8 juillet, d'ailleurs, Sylvain.
Voilà. Je viens. Donc, il paraît que la bière est très bonne.
Là, c'est vraiment un tiers-lieu, d'ailleurs, qui intensifie les usages, puisqu'il y a à la fois du coworking, à la fois il y a de l'événementiel, à la fois il y a de la restauration. Et c'est d'ailleurs aussi, je pense, la destination de ces tiers-lieux que d'intensifier les usages en se disant, bah, dans la journée, on peut faire du coworking, mais le soir, on peut faire un événement culturel, on peut faire un événement de restauration, on peut faire d'autres éléments, et cette intensification des usages, c'est aussi une bonne chose.
Donc
pour
l'écologie. Donc quand les pilotes de l'étude disent que dans la première recommandation, je lis hein, votre recommandation, pour les futurs projets immobiliers, chaque espace ouvert au public devra systématiquement être conçu pour différents usages, ce qui limiterait la vacance des locaux, ils ne seront utilisés qu'une partie de la journée. On est dans le cœur du sujet.
Exactement.
Avec ce que vous écrivez, Emmanuel.
Si vous permettez, mais oui. Un élément très favorable pour limiter le temps de trajet, c'est aussi le réseau du Grand Paris Express avec 71 gares, dont 60 nouvelles. Donc c'est autant de cœurs de quartier qui vont permettre de se déplacer beaucoup plus facilement en transport en commun plutôt qu'en voiture, et du coup limiter ce temps de trajet qui pose problème à un grand nombre de franciliens.
Nous avons fait, nous, l'étude, justement, sur... c'est un petit peu l'objet, la troisième phase de Inventons la Métropole 3, de redéfinir complètement les aménagements autour des gares, à proximité des gares. Et les études que nous avons faites montrent qu'effectivement, les personnes auront une journée ou deux de télétravail, ce qui n'empêchera pas qu'ils aient quand même un bureau. Parce qu'on dit que les bureaux vont s'effacer face au télétravail. Non. Les personnes resteront dans leur bureau, mais ils vont télétravailler, évidemment, une journée ou deux jours. Mais ils ne veulent pas télétravailler à leur domicile. Ils estiment que le télétravail qu'ils effectuent à leur domicile est négatif, n'est pas productif. En plus, évidemment, la plupart de leurs patrons les rappellent à l'ordre parce que le travail n'arrive pas véritablement à être fait totalement. C'est pour ça qu'on va développer autour des gares et sur les gares, dans tous les projets connexes, des espaces coworking et des espaces de télétravail. Donc on a redéfini en fonction de cette période qu'on vient de voir défiler derrière nous avec les périodes de confinement, etc. Donc, on va réaménager complètement, repenser complètement les villes et les quartiers qu'on avait envisagés dans Inventons la métropole 2 et Inventons la métropole 2 et 3.
Et j'ajouterais d'ailleurs que les entreprises... en fait, n'avait pas attendu le Covid pour établir des schémas directeurs et repenser les flux entre leurs grands sites, qui souvent sont émaillés le long de grands axes de lignes de métro ou de lignes de RER. Et donc, on est tout à fait dans cette thématique-là de rapprocher les sites par des accès qui sont faciles, rapides, proches des stations hein, de métro et des nœuds, des différents nœuds de transport en commun. Donc tout à fait d'accord pour être dans cette dynamique, pour que les entreprises qui vont mettre à plat leurs implantations et pour beaucoup, en fait, libérer progressivement, on a bien dit que c'était sur une période d'une dizaine d'années, en fonction des engagements locatifs, et pour se concentrer sur des immeubles certainement plus performants, avec énormément de services, repenser beaucoup de collaboratifs, ce qui veut dire aussi une densification de l'usage, une mixité, ce qui veut dire que techniquement, tous ces immeubles vont plutôt monter en gamme pour répondre à tous ces besoins.
Ben, vu pour notamment Marne Europe, que je connais bien, vu les demandes que nous avons de la part des entreprises, on a des entreprises qui sont dans une ville voisine qui paient plus de charges que de loyers aujourd'hui. Et il est certain que nous, en proposant de l'énergie positive, c'est-à-dire aucune charge véritablement, c'est sûr que l'ensemble, des chefs d'entreprise sont intéressés évidemment par ce qu'on leur propose.
Marianne Loradour. Je sais que c'est un sujet qui vous passionne, l'énergie, l'écologie, la transition énergétique, puisqu'effectivement, il n'y a plus de débat autour de la transition énergétique vis-à-vis du réchauffement climatique. On n'a pas de planète B, donc on est d'accord. Tous ces projets, c'est ce que je vois par exemple dans la deuxième préconisation, encourager les acteurs du développement urbain à porter à la ville un bien d'intérêt collectif. C'est intéressant parce que ça me fait penser aux agoras. Vous savez, les agoras où on trouve bien, où les personnes vivent de façon apaisée, où on a une ville harmonieuse, beaucoup moins stressante. Est-ce que, je sais que c'est un des objectifs que vous vous êtes assigné aussi, est-ce que vous pensez aujourd'hui que la masse dans laquelle nous nous trouvons, elle est devenue critique, irréversible, et qu'on va vers un intérêt qui est plutôt constructif et positif ? Et une époque, c'était plutôt un discours qui se faisait dans les salons parisiens. Et aujourd'hui, on a une population, ce qui peut le faire avec une population, qui est prête et réceptive.
En fait, ce que je crois, c'est que à la suite de cette crise Covid et dans le cadre du plan de relance, on a tous une responsabilité énorme par rapport à ce plan de relance. C'est d'arriver effectivement à retrouver cette trajectoire des accords de Paris dont parlait Emmanuel de Mazière, ce réchauffement de 1,5 degré. Pour l'instant, on n'y est pas. Les experts du GIEC parlent d'un réchauffement plutôt à 3 degrés. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent qui a été mis sur la table par l'État, par les collectivités locales, par la Banque des territoires. Il y a beaucoup d'argent qui est mis sur la table pour cette relance post-Covid. Et là, je crois qu'effectivement, il faut impérativement que ces investissements, ces financements, cet argent aille sur des investissements verts, décarbonés, qu'on change la logistique pour aller vers une logistique du dernier kilomètre, qu'on change la nouvelle façon de faire les immeubles, mais ça, c'est à peu près acquis. Mais par contre, qu'on vienne sur la réhabilitation thermique des anciens immeubles, et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Mais effectivement, 2050, 90% des immeubles 2050 sont déjà existants aujourd'hui. Donc, il faut faire cette réhabilitation des bâtiments. Et je crois qu'il faut effectivement diriger l'argent vers sa transition énergétique.
Voilà, il nous reste encore quelques minutes. Vous voyez, ça fait déjà un peu plus d'une heure, 1h03 exactement, 18h33, que nous sommes à l'antenne en direct, un sujet passionnant, bien évidemment. Dire quelques mots de conclusion, je vais commencer par vous, Emmanuel Desmazières, justement, sur cette séquence, et d'ailleurs, vous féliciter de la réalisation de cette étude, et qu'est-ce que ça vous inspire, parce que je rappelle aussi que vous êtes directeur général d'ICAT Promotion.
Cette séquence, c'est vrai qu'elle est issue d'un traumatisme, cette crise sanitaire, pour ceux qui ont été touchés en particulier par leurs proches, c'est une période qui a été très, très difficile. Pour autant, cette crise, elle ouvre aussi un certain nombre d'opportunités pour les acteurs de l'immobilier, en particulier sur ces sujets de transformation, qu'ils soient à l'échelle de l'immeuble ou à l'échelle du quartier. À l'échelle de l'immeuble, on a l'enjeu de rénover ce parc obsolète pour une partie importante. On l'a vu, 80% des immeubles de plus de 1000 m² sont antérieurs aux années 2000 et donc ont des performances énergétiques qui sont très médiocres. Il y a le sujet énergétique, il y a le sujet du bilan bas carbone et aussi le sujet des usages. Et donc cette transformation, elle va être très importante dans les années à venir et le monde de l'immobilier est prêt à appréhender ces sujets-là à l'échelle de l'immeuble. Il faut ensuite raccrocher l'immeuble dans un contexte un peu plus large qui est celui du quartier, avec le travail de l'accroche au sol. Et on a découvert pendant le confinement une relation de proximité beaucoup plus importante que celle qu'on a l'habitude de pratiquer. Et je crois que les immeubles rénovés, les immeubles nouveaux, devront intégrer cette dimension plus globale pour créer de l'attractivité, du flux, avec des surfaces hybrides en rez-de-chaussée, que ce soit du commerce, du service, qui vise l'intérêt général. Je pense que c'est très important. Et une des préconisations, c'est justement de permettre, par la constructibilité, d'intégrer ces enjeux qui sont d'intérêt commun. Donc, ça fait beaucoup de choses à réaliser, mais je pense que toute la profession est mobilisée pour aller chercher ces objectifs et avec un objectif majeur qui est quand même la lutte contre le réchauffement climatique. Je crois que ça, on l'a beaucoup appréhendé dans cette étude.
Merci beaucoup Emmanuel Desmazières. Cécile de Guillemont.
Alors moi, je suis ravie parce que ça fait 27 ans que je suis directeur immobilier, que ça peut paraître un métier pas forcément très glamour. En tout cas, certainement, c'est une fonction support en entreprise. Et aujourd'hui, on se retrouve sur le devant de la scène, surtout que les responsables de sites,
établissements,
etc., avec la crise du Covid, on a quand même été au cœur, justement, de tous les services du quotidien. Hein, je pense aux livraisons, hein, je pense à tout ce qui était sanitaire, je pense aux courriers en période de clôture de compte ou autre. Tous ces services généraux au sein de l'entreprise qui ont pris vraiment un relief tout particulier. Et on était bien contents d'avoir des personnes qui étaient fidèles au poste et prêts à effectuer les tâches qui leur incombaient. Donc on est passé un petit peu de l'ombre à la lumière. Mais ce que je voudrais dire surtout, c'est que même si le directeur immobilier, surtout quand il est assorti de cette fonction Facility Management Services Généraux, c'est une fonction extrêmement transverse, business partner en particulier bien sûr de la direction générale et de la transformation de l'entreprise, et ce n'est jamais finalement que le catalyseur ou le résultat final, un petit peu comme la face émergée de l'iceberg, de quelque chose qui est beaucoup plus important comme transformation dans l'entreprise, qui doit repenser toute son organisation. La façon de travailler, la répartition des tâches entre ce qu'on va faire en télétravail chez soi, ce qu'on va faire éventuellement dans des tiers-lieux et ce qu'on va venir faire au sein de l'entreprise. Donc il n'y aura pas de modèle unique. Chaque entreprise doit absolument se prendre en main, éventuellement pratiquer des échanges de benchmark avec d'autres pour voir un petit peu quels exemples peuvent les inspirer. Mais chaque entreprise doit vraiment imaginer sa propre histoire en fonction de sa culture, penser à l'attraction des talents et penser à ces fameux schémas directeurs dont je parlais. Donc pour nous, c'est finalement une très belle opportunité de mettre en œuvre tous nos métiers, tout notre positionnement, tous nos savoir-faire, donc au service de l'évolution des organisations, parce que tout le monde se rend bien compte à quel point l'expérience salariée et l'attraction des talents, tout ça en liaison avec les partenaires sociaux, parce que tout ça se négocie dans le cadre d'accords d'entreprise. Donc voilà, il y a beaucoup d'opportunités pour les directions immobilières et services généraux pour accompagner ces changements.
Donc c'est un message extrêmement positif. Merci beaucoup, Cécile de Guillemont.
Et Sylvain, si vous me permettez,
mais je vous en prie,
d'écouter également les maires. La métropole, c'est un ensemble de maires. Nous vivons au quotidien. Nous voyons ce qui se passe sur le terrain. Nous ne sommes pas dans les ministères, etc., à prendre des décisions. Nous, on voit bien ce qui se passe sur le terrain, on voit bien l'évolution de nos populations, on voit bien ce qui va se passer, évidemment, dans les années à venir, et on aimerait, nous, être un peu plus écoutés, évidemment, sur la scène étatique, bien je sûr. Dirais, et qu'on puisse un petit peu nous entendre lorsque l'on dit, par exemple, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on continue quand même à je dirais, construire des logements à l'est parisien, et on continue à construire des bureaux à l'ouest. À quand le grand changement, le grand bouleversement qui pourra faire suivre? Parce qu'on parle beaucoup d'écologie. Moi, je dis toujours, l'écologie, il y a ceux qui en parlent et ceux qui la font. Nous, dans nos petites collectivités, même si ma collectivité fait 30 000 habitants, l'écologie, on la fait au quotidien pour l'adapter au bien-être de nos administrés.
Merci beaucoup, Jacques-Alain Bénesti. Marianne Loiseau.
Écoutez-moi, pour conclure, j'irai bien dans une vision un peu schumpeterienne de la destruction créatrice. Et je crois en fait que le rebond va être très puissant, qui sera au moins à la hauteur de ce que de la crise et de l'affaissement qu'on a connu. Je crois d'ailleurs qu'en Île-de-France, les forces de rappel sont très profondes. Je crois que, comme le disait Emmanuel de Mazières, on a ce Grand Paris Express, 200 km de lignes automatiques de métro, le doublement. C'est le plus grand projet d'infrastructure d'Europe. On a les Jeux Olympiques en 2024 avec Absolument. Un démonstrateur de notre savoir-faire, de notre fabrication urbaine aux yeux du monde. Et je crois que tout ça va nous porter vers un plan de relance qui sera extrêmement puissant.
La trajectoire est définie. Merci, Marianne Loiseau. Un mot de conclusion, le président Antoine Derville de l'ORIE. De cette session estivale riche en
termes. Oui, absolument, très riche, beaucoup de choses qui se projettent vers l'avenir, et c'est formidable. Je voudrais juste rajouter une chose, et je voudrais pas ruiner l'ambiance, mais je pense qu'il y a urgence quand même. Il y a urgence à faire tout ça. Je pense qu'on s'est bien rendu compte qu'effectivement, comme vous le disiez, Sylvain, il n'y a pas de planète B, et que tout ça s'accélère d'une manière incroyable. On l'a dit d'ailleurs, la crise sanitaire a été un accélérateur de tendance formidable. Et si je peux me permettre, elle n'a pas été un accélérateur dans les délais législatifs, dans les délais administratifs. Beaucoup de promoteurs se plaignent du parcours du combattant pour l'obtention d'un permis de construire. Je ne parle pas là des problèmes financiers ou des problèmes fiscaux. Mais voilà, c'est quand même un sujet prégnant qui existe depuis des années. Hein. Je suis conseiller d'administration de l'ORIE depuis plus d'une dizaine d'années. J'ai fait une étude il y a 5 ou 6 ans sur l'empilement des normes, qui là aussi était quelque chose d'absolument incroyable.
Autre débat.
Et voilà, je pense qu'il faut quand même qu'on prenne conscience de cela. En tant que président de l'ORIE, j'ai beaucoup de messages qui nous alertent sur cette problématique-là, qui est une vraie problématique, et il faut qu'on en sorte, parce que non seulement c'est des délais incommensurable, mais c'est surtout des découragements. Il y a des projets qui ne voient pas le jour parce qu'on n'y arrive pas, on ne peut pas. Déjà, l'acte de construire est long. Alors, il va être un peu moins long maintenant par le bois, par des choses plus dynamiques. Mais quand même, il faut qu'on prenne conscience que ce millefeuille administratif et législatif est quand même un frein important.
Donc, on peut même parler.
Si les politiques pouvaient nous entendre sur ce sujet, ça serait avec grand bonheur.
Vous êtes d'accord, Jacques-Alain? On peut même parler d'inflation normative dans une certaine mesure. Et ce que dit Antoine Derville est d'autant plus juste dans l'urgence que, comme vous le savez, les chiffres de la production de logements neufs sont dramatiques. Vraiment dramatique quand on sait que 5 millions de Français sont mal logés et que, effectivement, dans ce que dit Antoine, il y a une vertu très importante, c'est que le jeu de la temporalité est parfois délétère dans l'industrie immobilière, qui s'inscrit sur un temps bâtisseur, sur un temps long, qui n'est pas forcément toujours compatible avec les mandats électoraux. Sauf que il y a des administrés, des citoyens, qui demandent justement à user de tout cela. Et donc la fonction sociale que vous remplissez, vous, Antoine Derville, en tant qu'entrepreneur, mais vous tous ici présents, elle est absolument déterminante. Et voilà, j'espère effectivement que les PC, par exemple, les permis de construire, verront une vitalité, n'est-ce pas, Emmanuel de Mézières, extrêmement importante. Vous savez, il n'y a pas si longtemps, je suis dans une ville, une très grande ville de plus de 100 000 habitants, 60 permis venaient d'être déposés dans les 3 mois qui précédaient, 57 refusés. Il faut juste expliquer aux citoyens ce qui se passe. Voilà.
Oui. Vous êtes d'accord avec ça?
Voilà. Donc, le fléau des recours.
Les juridictions administratives ont fait beaucoup de progrès. C'est vrai que les recours, maintenant, arrivent à être traités dans l'année, alors qu'avant, c'était 3 ans. Je voulais saluer, justement, ces juridictions et les magistrats qui ont fait un effort considérable, d'autant que la plupart des recours sont émis justement quelquefois, souvent même, par les oppositions municipales.
Mais dites-nous, parfois il y a même des recours abusifs,
qui sont maintenant,
absolument.
Maintenant il y a des sanctions,
voilà.
Et les gens sont condamnés.
Absolument.
C'était une très bonne chose d'ailleurs.
Absolument.
Et merci. C'est moins 25% de permis de construire collectif sur l'année glissante, alors que les permis de construire en maison individuelle progressent.
Voilà.
Donc l'étalement urbain, il est là.
Mais on peut donner des chiffres. Les chiffres de la production neuve de logements sont les mêmes que dans les années 70, sauf qu'il y a qu'il y avait 10 millions d'habitants de moins, hein, déjà, et qu'effectivement, il est très important aussi d'équilibrer les choses. Et qu'enfin, moi, ce que je vois très positivement, parce qu'il faut rester dans une autre positive, c'est que vous, les acteurs de l'immobilier, les entrepreneurs de l'immobilier, et nous, observateurs de la vie publique, nous le savons bien, vous êtes devenus des acteurs sociaux, des acteurs sociétaux, dans lesquels vous remplissez des missions qui ne sont pas à rougir non plus, et que cette alliance entre prospérité, profit et humanité ou dimension humaine dans la cité me paraît extrêmement être positive. Voilà, je suis ravi, voilà, parce que c'est des sujets extrêmement intéressants. On a pris le temps, les amis, les 18h44, de prendre les choses. On avait dit 1h15 max, on est quasiment dans les clous. L'heure est venue de faire des remerciements, voilà, c'est important, pour avoir produit cette soirée estivale. Alors bien évidemment, les éléments du calendrier de l'ORIE, vous le trouverez sur le site. L'URL figure sur le podcast de l'émission. Je rappelle que cette émission, si vous l'avez loupée, ben, ne vous inquiétez pas, elle est récupérable en replay sur l'application de Radio Immo, bien évidemment, et sur simple appel, on vous fournit aussi le fichier, le MP4. Maintenant, ça fait très moderne de parler technique. Voilà, merci à vous, Antoine Derville, président de l'ORIE, d'être venu et nous confier cette mission d'animation de cette soirée estivale. Je rappelle que vous êtes en outre président de Colliers International France. Merci vraiment. Un grand merci à vous, Jacques-Alain Benisti. Voilà, moi, les politiques qui parlent sans éluder les questions, ça me plaît énormément. Je rappelle que vous êtes maire de Villiers-sur-Marne, conseiller départemental, conseiller métropolitain, et vous êtes membre du bureau et délégué de suivi Inventons la métropole du Grand Paris. Je rappelle que le concours a été lancé le 6 mai, 3e édition, 6 mai 2021. Et vous êtes en charge aussi des grandes opérations métropolitaines à la MGP. Voilà, vous transmettrez nos amitiés à Patrick Ollier. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup à vous, Marianne Lourado. J'ai pris beaucoup de plaisir à partager ce moment avec vous. Je rappelle que vous êtes directrice régionale Île-de-France de la Banque des Territoires, du groupe La Caisse des Dépôts. Vous êtes ici chez vous, vous revenez absolument quand vous voulez, mais on a déjà pris rendez-vous. Un grand merci à Emmanuel Desmézières, patron d'ICAT Promotion. Vous avez été excellent et bien sûr, la palme d'or pour notre amie Cécile de Guilbon. Voilà, j'adore, je suis fan. D'ailleurs, si elle a un fan club, c'est moi le président. Merci en tout cas. Alors, aussi des remerciements à l'équipe. Raphaël Zepa, qui a vraiment super bien bossé sur le dossier. Florian Bessac, aussi, qui a œuvré, qui est en cabine avec toute l'équipe. Pascal Béhari, qui s'est occupé de l'organisation. Un grand merci à elle. Et bien sûr, Smaïn Awadj, le délégué général de l'ORIE. Merci encore une fois de leurs efforts. Mais aussi nos équipes de Radio Immo, Pierre-Yves Falson, Baptiste Plouchard et l'ensemble des équipes, ainsi que Karine Weber, qui s'est occupée de l'accueil. Voilà, sans eux, nous ne serions tout simplement pas là. Il faut remercier tout le monde. C'est ça aussi l'esprit de partage et l'esprit coopératif. J'espère que j'aurai le plaisir de vous revoir. Merci Antoine Derville.
Merci à vous, à très bientôt.
À bientôt. Merci.
Covid et enjeux écologiques, quelle future implantation des actifs? La soirée estivale de l'ORIE, à retrouver sur Radio Immo, tous les agrégateurs de podcasts et sur le site www.orie.asso.fr.